Donc la session, le colloque est ouvert. Je vais vous en faire une brève introduction. Je vais d'abord commencer par te remercier, Anne-Marie, pour ton travail, ce que tu as fait notamment avec Pierre Bont au nord et au sud du Sahara sur les abattages rituels, sur la Tabaski, l'Aïd el-Kébir. Te remercier pour les recherches que tu as ouvertes en Europe et que tu ouvres aujourd'hui sur le continent américain. Tu m'as fait l'honneur de présider le comité scientifique de ce colloque et c'est grâce à toi que nous pouvons le tenir ici, dans cette belle institution du Collège de France, qui représente en France la liberté de la recherche, un lieu de débat et de confrontation d'idées sans tabou. Ce colloque porte sur un sujet religieux et sur un thème d'actualité parfois brûlant, le halal. Il s'agit d'interroger à travers cette expression qui de qualificatif est devenue substantif les normes islamiques et en particulier les interroger dans les pays sécularisés ou en voie de sécularisation. Ce premier colloque académique européen sur le halal rassemble des contributions qui, par leur approche, évitent de tomber dans ce qu'on pourrait appeler le piège de l'assomption normative qui réduit le halal à ce qu'il prétend être, c'est-à-dire à une propriété religieuse. Les produits, objets, idées, comportements qualifiés de halal seront plutôt décrits et analysés ici comme résultant de dynamiques normatives religieuses et non religieuses. Ce colloque s'attache à mettre en valeur les propositions déconstructives, transversales, réflexives, à l'exclusion des approches normatives, qu'elles soient théologiques, ou de l'ordre de celles qui trônent aujourd'hui dans les multiples salons et exhibitions du halal business, d'où l'absence d'acteurs religieux ou du marché, en tout cas de ce côté-ci de l'estrade. Il s'agit ici d'étudier les normativités islamiques sous l'angle de ce que j'appellerais, pour résumer, les coproductions normatives. Alors pour expliquer cette expression, je prendrai l'exemple des viandes halal fabriquées dans les abattoirs européens selon des spécifications techniques déterminées en vertu de plusieurs systèmes normatifs relatifs à la religion, bien sûr, à la rentabilité économique, à la santé, à la sécurité, à la justice sociale ou au bien-être animal. À y regarder de près, et c'est ce que font les ethnologues, le sacrificateur sur la chaîne d'abattage ne décide pas grand-chose du procédé d'abattage qui obéit à bien des contraintes, au point qu'il est légitime de se demander ce qui permet précisément de le qualifier de religieux. Le fait d'accorder à cet abattage une identité religieuse résulte, à mon sens, de négociation, de délibération, d'accord entre les différents opérateurs, religieux et non religieux, qui sont impliqués. La coproduction ne se laisse pas voir. Le fait de ne plus voir dans le coproduit qu'une chose religieuse, in fine, est une condition nécessaire à l'existence du marché. Mais c'est un obstacle pour nous à sa compréhension. Il existe ainsi un travail collectif d'essentialisation qui nous fait perdre de vue son historicité au profit de la seule forme religieuse qu'il doit revêtir in fine. Combien d'observateurs du marché halal, y compris parfois dans des travaux académiques, commencent par définir ce qu'est un abattage rituel en islam avant d'en décrire les usages sociaux, comme s'il existait un abattage islamique en dehors de ce que les gens en font. Ce faisant, ils réaffirment la primauté du religieux sur les autres champs, comme le font les imams ou les entrepreneurs du marché, et travaillent bien involontairement à la même illusion. L'étude des coproductions normatives nécessite un décodage, un démontage de ce travail d'essentialisation afin d'éviter les deux apories les plus fréquentes, celle de l'interprétation naïve, qui s'arrête à l'efficacité intrinsèque du rituel, ou bien celle, à l'opposé de l'interprétation cynique, qui ne pense le marché que dans un rapport d'exploitation de la crédulité des musulmans. Adopter la perspective des coproductions normatives amène à penser les choses religieuses comme des œuvres de coopération entre des champs, Il s'agit alors de penser les interactions entre ces différents champs et d'analyser les similarités structurelles, les emprunts, les échanges, etc. Travailler sur les normativités, c'est, dans une approche phénoménologique, partir de la porosité des champs, ne pas préjuger de l'origine des normes, c'est en faire la genèse en abandonnant l'idée d'en trouver le point de départ. La perspective historique sera convoquée dans une première session de ce colloque. Nous verrons ce matin, au travers d'analyses discursives et historicisées de fatwas relatives à la mise à mort des animaux, aux interdits et prescriptions alimentaires dans les islams chiites et sunnites, que les normes alimentaires ont toujours été âprement discutées en leur temps, en fonction de considérations économiques, environnementales et surtout des relations avec les minorités ou avec le monde extra-islamique. Comment l'esturgeon est devenu halal, favorisant ainsi l'exportation du caviar iranien avec la communication de Christian Bromberger. Comment et pourquoi le porc aurait pu être licite dans la Turquie républicaine d'Atatürk, présentée dans la communication en anglais de Burak Onaran. Ou comment, d'après Brahim Jadla, comment les réformistes éduqués exilés à Paris, ne trouvant aucune justification au tabou de la viande des chrétiens, en prenaient la consommation. Dans une seconde session, Hossein Ben Khaira décryptera à travers la notion de halal les enjeux théologiques de ce qu'il appelle le légalisme et le formalisme du réveil contemporain de l'islam. Le statut de la loi dans cette religion pourra également être interrogé à la lumière de deux exemples contemporains, celui du traitement comparé de la biomédecine dans les mondes chiites et sunnites, présenté par Omar Fassatoui, celui du traitement des animaux dans la sphère agroalimentaire européenne, présenté par François Ochereau et Adèle Selmi. Cet après-midi, la norme halal alimentaire sera considérée dans ses relations à d'autres systèmes de normes, l'écologie, le bio, et au travers de tensions qui traversent les politiques de qualité alimentaire, le traditionnel, le moderne, le local, le global, le beldi, le roumi, avec les communications de Manon Istas et de Katharina Graf, qui seront suivies d'une analyse proposée par Jean-Noël Ferrier sur les usages simultanés des catégories halal et bio. La perspective de l'antagonisme normatif entre droit musulman et droit français sera questionnée dans la session de fin d'après-midi consacrée à l'analyse des réponses apportées dans le cadre juridique aux demandes particulières qui se formulent de plus en plus souvent et de plus en plus explicitement en termes religieux, que ce soit dans le domaine alimentaire ou matrimonial, dans les espaces privés et dans les espaces publics, avec les contributions de Stéphane Papy, de Leïla Arslan, de Claire de Galembert et de Corinne Rostin. Nous terminerons cette journée par un pot de bienvenue qui aura lieu dans le hall devant la salle de conférence. La seconde journée de ce colloque sera plus spécifiquement consacrée au halal en tant qu'espace symbolique, en constante évolution ou extension, et aux usages des normes à des fins éthiques et politiques. Références religieuses, qualités alimentaires, frontières rituelles, le halal se constitue également comme espace symbolique, celui de la Oumma idéalisée, où l'humour, la bienséance, l'esthétique se déclinent selon une Islamic way of life. Cette contribution de Samir Amgar fera écho à celle d'Amel Boubaker, qui montrera comment les coachs islamiques requalifient l'espace haram de l'entreprise. Vulca Fidolini montrera comment les jeunes Marocains de cette Oumma diasporique italienne font du contrôle de leur corps et de la discipline de leur sexualité un outil d'affirmation islamique sur un mode individuel qui aboutit à une redéfinition de la norme sexuelle traditionnelle. Une session sera dédiée à la description et l'analyse des enjeux, des controverses publiques sur l'abattage rituel dans les médias français et québécois, avec les communications de Chantal Crène, Pascal Tozzi et du Québec, celle de Radiatou Lafal. Isabelle Rigoni analysera pour sa part les effets en retour sur la blogosphère musulmane de cette construction du halal comme problème public et comme problème politique. l'après-midi du vendredi sera consacré à l'économie du halal, dans les lieux et dans les champs où la vertu du halal, sous quelque forme qu'il se décline, n'est pas contestée, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est et dans le domaine de la finance islamique. Johan Fischer, observateur de longue date de l'islamisation du consumérisme en Malaisie, nous parlera de la campagne de halalisation des entreprises singapouriennes. John Lever et Glenn Hardaker marcheront sur les pas de Johan Fischer en Malaisie pour décrire la stratégie halal post-libérale que poursuivent les gouvernants malaisiens dans le but de renforcer l'hégémonie de la minorité malaise dans une société à peine majoritairement islamique. Michele Carboni, Carlo Perelli et Giovanni Sisto s'interrogeront, eux, sur les enjeux tunisiens du tourisme halal dans la Tunisie post-révolutionnaire d'Ennahda. Et Gérard Groc s'intéressera quant à lui au rôle joué par l'économie du halal dans la Turquie de l'AKP. Enfin, pour terminer cette dernière session, Isabelle Chapelière nous proposera quelques hypothèses sur les alternatives qu'offre la finance islamique, du point de vue des financiers, à la finance conventionnelle dans un contexte de crise mondiale. Voilà pour ces deux journées qui, comme vous le voyez, seront extrêmement denses. Et donc, je demanderai aux intervenants de respecter scrupuleusement le temps de 20 minutes qui leur est imparti et aux animateurs des sessions d'être drastiques sur les temps de parole afin de laisser toute la place au débat qui viendront chaque fois clôturer les sessions. Donc les sessions seront composées de 3 interventions et d'un débat de 20 minutes. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. I wish you a very nice conference and a pleasant stay in Paris.